Il y a bien des façons de partir à la rencontre d'un écrivain que l'on aime. Se retrouver chez lui, autour de sa bibliothèque, pour connaître ses auteurs préférés, pour en savoir davantage sur le rapport qu'il entretient au livre, qui est pour lui tout à la fois son outil de travail, sa source d'inspiration et de plaisir, pour découvrir aussi comment il range ses ouvrages, s'il les annote ou pas, s'il est maniaque avec eux, s'il en achète beaucoup, est une manière fort plaisante d'en savoir davantage sur les écrivains. Et c'est la promesse de ce nouveau podcast appelé Bibliophile, aujourd'hui consacré à Camille de Peretti, qui vient de publier L'inconnu du portrait aux éditions Calman-Lévy.
Bibliophile, découvrez les bibliothèques de vos auteurs préférés.
Pour ce roman, la première source d'inspiration de Camille de Peretti a été le tableau « Portrait d'une dame » de Gustav Klimt, peint en 1910. Une toile qui eut une destinée hors du commun. Qui est la jolie femme au regard mélancolique qui a posé pour le peintre autrichien? Pourquoi Klimt a-t-il fini par modifier sa toile? Mystère. C'est à partir de là que Camille de Peretti a inscrit ses personnages et son histoire. Nous sommes au début du XXe siècle. L'inconnue du portrait s'appelle Martha. Elle a 17 ans et travaille dans une usine à Vienne. Fille-mère, son petit garçon, Isidore, est tout pour elle. L'avenir de l'enfant semble hélas tout tracé. Pauvre il est, pauvre il restera. Cireur de chaussures dans les rues de Manhattan est ce qu'il peut espérer de mieux. Cependant, Isidore attend bien plus de l'existence et il a raison. Plus tard, il taira son enfance dramatique à ses proches. Mais c'est compté sans la ténacité de sa fille Pearl qui remontera le fil du temps. Il le faut bien quand on a des parents hors normes et qu'on est le sosie d'une jeune fille peinte par Gustav Klimt 90 ans auparavant. À travers ce grand roman d'aventure, Camille de Peretti traverse les époques et les villes avec maestria et construit une histoire pleine de fureur et de sentiments. Elle est l'autrice de 8 romans, dont Blonde à forte poitrine en 2016 et Le sang des Mirabelles en 2019. Elle nous a donné rendez-vous chez elle, dans son appartement de l'Ouest parisien, devant sa bibliothèque. Allons-y.
Bonjour Camille.
Bonjour.
Merci de nous accueillir.
Merci à vous de venir chez moi. On va descendre directement.
Et voilà votre bibliothèque. Bonjour Camille de Peretti.
Bonjour Cécile.
Camille de Peretti, votre bibliothèque, je vais essayer de décrire un petit peu où elle se trouve. C'est une bibliothèque sur mesure, on est d'accord ?
Oui.
Qui se trouve dans votre salon, sous l'escalier, qui est extrêmement bien rangée.
Oui, c'est vrai, elle est très bien rangée.
Alors, expliquez-nous votre rangement. Comment rangez-vous vos livres ?
Alors, tout est rangé par catégorie et à l'intérieur de chaque catégorie par ordre alphabétique.
D'accord.
Donc, tout en haut, on a le théâtre. Puis, on a toute la fiction. Alors, la fiction, c'est vraiment la très, très grosse partie de la bibliothèque. On a une partie là où c'est les critiques littéraires. Là, ensuite, il y a même les livres de cuisine. Il y a une catégorie livres de cuisine parce que j'aime beaucoup cuisiner. Il y a évidemment la poésie, donc j'ai un très grand rayonnage de poésie. Et puis, j'ai quelques pléiades que j'ai mis entre eux, que je trouve très beaux, mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis, en bas, tout en bas, il y a les bandes dessinées de mon mari. Il en a quelques-unes quand même. Et après, ici et là, il y a pas mal de livres d'art quand même. Et puis, au fond à droite, il y a les livres de voyage et les livres des enfants qui ont un tout petit rayonnage, mes enfants, parce que dans leur chambre, ils ont beaucoup de livres pour eux. Mais là, je me disais que c'était bien si moi, j'étais en train de lire, qu'eux viennent. Et c'est plutôt des albums, vous voyez, de l'école des loisirs ou des choses comme ça.
Et ils viennent ?
Ah oui,
ils
beaucoup.
Ils viennent lire ici.
Oui.
D'accord. Vous avez beaucoup de poches.
Quasiment que des poches.
Mais
c'est, alors, les trois quarts de la bibliothèque, c'est vraiment des auteurs morts. Et quand je dis les trois quarts, c'est 90%, je pense. C'est que des classiques.
D'accord. Donc, vous lisez beaucoup de classiques.
Oui.
Plus de classiques que de contemporains.
Oui. Ça a un petit peu changé ces derniers temps, parce que je me suis quand même mise à m'intéresser à ce qui se faisait aujourd'hui, mais pendant de très très nombreuses années, je n'ai lu que des classiques. Oui.
D'accord. Et où achetez-vous vos livres ?
Dans les librairies, mais surtout dans, en fonction de là où j'habite, mais dans la librairie de mon quartier, quoi. Je suis, ouais.
Vous annotez vos livres ?
Non seulement je les annote, je les corne et je les commente. Enfin, c'est et je ne les prête jamais. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que quelqu'un qui pourrait prendre un livre de ma bibliothèque saurait ce que j'ai pensé du livre, puisque j'ai tellement corné le livre et écrit des choses à l'intérieur. Donc c'est vraiment des objets, et même je cache des choses à l'intérieur de mes livres, des lettres, des petits mots. Parce que en fait, je me dis comme ça, si je reprends, ça m'arrive parfois, je reprends un livre que j'ai pas lu depuis 10 ans, et là je retrouve à l'intérieur un petit mot qu'on m'avait donné à cette époque-là et que j'avais voulu garder de ça. Donc c'est comme, chaque livre est un peu un réceptacle de souvenirs pour moi.
Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment, il marque aussi le temps,
oui, où je les ai lus.
Où vous l'avez lu.
Oui. Oui, oui.
D'accord. Mais si votre mari, par exemple, veut lire l'un de vos livres, ça pose un problème.
Alors, j'ai la chance d'avoir un mari qui ne veut pas lire mes livres. Je ne sais pas si c'est une chance. Non, faut pas dire ça. Mais c'est vrai que mon mari n'est pas du tout un lecteur de romans, donc c'est pas un problème.
Il lit les bandes dessinées. Mais il a lu toutes les bandes dessinées, oui, qui sont.
C'est un très grand lecteur de BD et en revanche, si jamais il veut lire un des livres de cette bibliothèque, je lui achète un exemplaire pour lui, comme c'est des poches.
D'accord.
S'il me dit ah mais je voudrais bien lire ta livre, je dis je vais te l'acheter. Je veux pas qu'il touche au mien en fait. Oui.
Et donc vous gardez tous vos livres?
J'ai quand même beaucoup déménagé dans ma vie, donc j'en ai garé quelques-uns. Mais non, il m'en manque. Alors, là-haut, dans mon bureau, il y a toute la philo. Et il y a tous les livres sur lesquels je travaille, qui m'aident pour mon. Quand à chaque fois que j'écris un livre, j'ai beaucoup de lectures et de recherches. Donc, là-haut, dans mon bureau, j'ai tous les livres de actuels qui sont en train de m'aider maintenant.
D'accord.
Et donc, ces livres-là, parfois, restent pas. Ça dépend.
Et vos livres ne sont pas là. Les livres que vous écrivez ne sont pas dans votre bibliothèque. Ils sont dans votre bureau.
Non, ils sont nulle part.
Ils sont nulle part.
Enfin, si je vais vous dire où ils sont derrière vous. Vous voyez l'espèce de banquette là.
Oui.
Ça se soulève et ils sont cachés là.
Ils sont cachés.
Oui.
Pourquoi vous les cachez?
Oh, parce que je trouve ça très prétentieux d'avoir ses propres livres dans sa bibliothèque. Et puis, je sais pas, moi j'ai Balzac dans ma bibliothèque quand même, donc vous voyez. Puis à P, il y a Pérec, Proust, enfin je vais pas mettre Peretti entre Pérec et Proust, quoi. C'est pas possible.
Non, mais vous pourriez leur réserver une petite case.
Oui, alors il y en a certains, par exemple, quand j'ai une traduction un peu dingo, genre une traduction en coréen. Alors ça, je trouve ça très chic d'avoir une traduction en coréen, donc je peux la garder quelques temps, mais c'est tout. Non,
donc
y a
elle
pas
est là,
y a
d'accord,
pas...
c'est tout.
Oui, non, c'est ça.
Mais là, votre bibliothèque, il n'y a plus beaucoup de place. Quand même. Elle est extrêmement bien rangée.
Il n'y a plus une once de place et c'est la catastrophe. Donc là, en fait, j'ai commencé une deuxième bibliothèque où j'empile des livres de manière très frustrée et mécontente. Mais tant qu'on n'achète pas des bibliothèques, et là, il va falloir en acheter d'autres. Et c'est un sujet de litige parce que mon mari trouve qu'il y a trop de livres dans cette maison et que ça envahit un peu tout et qu'il y en a dans toutes les pièces et tout ça. Il me dit ça suffit maintenant, donc il faut que tu tries. Et moi je ne peux pas trier des livres, c'est un truc qui est abominable pour moi. Donc à part vraiment des livres où je me dis bon d'accord, celui-là on va pas le garder, mais c'est très rare. Donc je sais pas, on est en négociation.
Voilà, il va falloir négocier
pour rajouter des bibliothèques dans la maison. Ouais.
Oui, parce que vous faites partie de ces gens, j'ai l'impression, qui n'aiment pas. Superposer les livres.
Je veux dire, double truc.
Voilà, les doubles trucs. En fait, voilà, les doubles rangements. Vous ne pousseriez pas ces rangées de livres-là pour les mettre dans le fond et accueillir des nouveaux devant.
Parfois, je suis un peu obligée et vous avez des livres derrière qui sont cachés. Il y a des doubles trucs derrière, mais pas beaucoup. Par exemple, tout le latin ou des choses comme ça. Ça, j'ai dit, c'est, on va le ranger derrière. Mais parce que j'ai vraiment plus besoin, je ne fais plus de latin du tout. Mon gaffio, il est planqué derrière. Certains trucs comme ça. Mais non, par exemple, Chateaubriand, j'ai lu cet été, par exemple, Chateaubriand, Les Mémoires d'Outre-Tombe, ça prend une place énorme. Il y a 5 volumes. J'ai lu là, cet été, pareil, Les Misérables. C'est très gros tout ça. Alors, donc je fais des doubles rayonnages Hugo, des doubles rayonnages Chateaubriand, Dumas et tout ça, mais ça me contrarie beaucoup. Je voudrais avoir tout bien étalé, tout propre, mais je ne sais pas comment on va faire. Il faut racheter des étagères. Voilà.
Et vous relisez certains livres ?
Je relis beaucoup. Et je travaille beaucoup en reprenant des livres que j'ai lus, parce que j'ai une, je me souviens très bien des livres que j'ai lus. Donc, par exemple, je ne me souviens pas d'un digicode que j'ai fait 200 fois, mais en revanche, je me souviens très très bien des noms des personnages et même des endroits, des paragraphes, si c'était en bas de la page ou à droite, etc. Et donc, quand j'écris, je me dis « Ah, ça, je me souviens que c'était dans Les Illusions perdues et ça devait être à peu près à la moitié du volume et tout ça. » Et comme mes livres sont cornés et annotés, je sais que je vais retrouver assez rapidement le truc. Donc oui, je relis, pas en entier, mais je relis des passages et des extraits pour m'aider dans mon travail.
Que vous retrouvez très vite.
Ouais. Très vite, ça dépend. Parfois, je me perds un peu quand même, mais j'essaye. Ouais.
Alors, j'ai vu que vous aviez mis en avant un pédigré de Patrick Modiano.
Oui,
en
je l'ai
folio,
lu il y a pas longtemps.
Par exemple, est-ce que ça, nous avons aussi un livre de David Hockney.
Ouais.
Est-ce que ces livres-là que vous mettez un petit peu en avant dans votre bibliothèque changent avec le temps ou est-ce que ce sont toujours les mêmes?
Ça change tout le temps. Ça tourne. Ça tourne et je trouve ça sympa justement. Et puis c'est plutôt, là pour le coup c'est vraiment de la déco. C'est-à-dire qu'un pédigré, c'est un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps et que j'ai beaucoup aimé. Mais ce que j'aimais, c'était la couverture avec ce petit chien adorable avec écrit « Attention, chien méchant ». C'est pour ça que je l'ai mis. Et David Hockney, oui, c'est un joli livre que j'ai posé comme ça. Mais non, ça tourne là.
Il y en a un autre petit là, je ne sais pas ce que c'est.
Alors ça, c'est une merveille. C'est une libraire qui m'a offert ce livre, que vous connaissez sûrement déjà. Qui est Stieg Dagerman, « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ».
Absolument, oui,
et magnifique. Ça, c'est un très, très beau livre. Et non, celui-là, il est souvent là, pour le coup, parce que c'est un livre important pour moi. Mais par exemple, il y a Beckett, « Premier amour qui a tourné il n'y a pas longtemps, qui est parti. Enfin, ça tourne, les livres que je mets en avant. J'aime bien.
Il y en a un autre, là, qui est mis en avant.
Oui, celui-là, ça, c'est magnifique. C'est Edward Gorey. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un illustrateur américain.
Non.
Qui fait des dessins pour enfants complètement morbides et macabres, très angoissants et très drôles. Et ce n'est pas du tout un livre qu'on donnerait aux enfants d'aujourd'hui parce que ça fout la trouille et que, en fait, les illustrateurs jeunesse n'ont plus tellement le droit de faire peur aux petits lecteurs. Ce n'est plus du tout à la mode, mais moi, je suis assez pour, en fait.
Alors, j'ai présenté, on va un petit peu parler ensemble de votre dernier roman. Et j'ai auparavant présenté donc votre dernier roman, L'inconnu du portrait. Dites-nous comment vous avez découvert le tableau de Gustav Klimt, Portrait d'une dame, et où il se trouve aujourd'hui.
Alors, c'est une histoire toute simple. C'est un ami qui a lu un article dans un journal, je crois que c'était dans le Guardian, et qui racontait l'histoire de ce tableau de Klimt qui a été repeint, volé, perdu, retrouvé, enfin cette histoire complètement rocambolesque, et qui m'a forwardé l'article en me disant « Tiens, j'ai lu ça ce matin, je suis sûre que ça va t'intéresser, t'adores ce genre d'histoire. » Et surtout, il trouvait ça marrant parce qu'il trouvait qu'elle me ressemblait, la femme du portrait. Et c'est arrivé comme ça. Et en lisant l'article, je me suis dit « Ça, ce serait un très bon sujet de roman. » C'est aussi bête que ça. Et après, en commençant mes recherches et en démarrant un petit peu l'enquête, je me suis dit « Oui, c'est vraiment un bon sujet. » Et aujourd'hui, donc, elle est à Piazza en Italie, à Plaisance, dans un musée d'art moderne. Et j'ai été la voir.
Vous êtes allée la voir?
Oui, les éditions Calman m'ont très gentiment offert le voyage. C'était hyper émouvant parce que ça faisait 2 ans que je travaillais dessus. Et c'était la première fois que je la voyais en vrai. Donc j'étais toute contente de la... En plus, ça, j'ai vraiment l'impression que c'est la mienne. Donc j'ai passé tellement de temps avec elle que... Voilà.
Est-ce que pour ce livre, vous avez fait des recherches?
Alors, pour tous mes livres, je fais toujours beaucoup de recherches et c'est un des aspects de mon métier que je préfère, c'est-à-dire pouvoir me plonger dans un univers qui n'est pas le mien et que je ne connais pas du tout. Typiquement, la crise de 1929, j'ai lu les mémoires d'un spéculateur de l'époque. Je vais chercher, alors là, pour le coup, des livres que je commande en ligne sur des livres qui ne sont plus édités, qui sont de seconde main, enfin tout ça. Pour ce livre-là, il y avait tout, parce qu'il y avait Vienne en 1900, donc j'ai lu beaucoup de biographies de Klimt, d'artistes de l'époque. J'ai découvert les poésies de Georg Trakl, qui est re-rentré là dans mon rayon de poèmes. Mais j'ai lu du Schnitzler, j'ai lu du Zweig, j'ai lu tous les auteurs viennois, etc. Après, j'avais les États-Unis, la crise de 1929. J'ai lu des documents sur la grippe espagnole. J'ai même commandé le best-seller de 1905, je crois, en Autriche, qui est écrit par une femme. Et c'était un livre de cuisine. Là. C'est la, un truc qui doit, ça n'est même pas traduit en français, qui doit s'appeler la bonne cuisine autrichienne de chez nous, je sais pas trop quoi. Et je me suis dit, parce que si je veux vraiment me mettre dedans, il faut que je sache ce qu'ils avaient dans leur assiette en 1900. Donc j'ai même essayé de faire des recettes. C'était très drôle. Donc je me mets vraiment dedans. Et donc je commande tout un tas de livres.
Vous immergez vraiment dans l'époque, dans les... Oui.
Et des livres que je ne suis même pas capable de lire, parce que je lis des livres en allemand, des livres dans des langues qui ne sont pas la mienne et tout ça, mais je me dis, comme ça, j'aurai les livres avec moi. Et oui, c'est pour ça que je les accumule pas mal aussi. Peut-être c'est pour ça. Mais voilà, donc... Et là, tous les livres de recherche ne sont pas dans la bibliothèque. Là,
voilà, ils
sont
là-haut dans mon bureau. Oui, d'accord. Après, vous les conservez dans votre bureau, ces livres-là?
Bah, ils tournent. Bah, une fois que le livre est terminé, normalement, je trie et je me dis qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je balance.
Oui, donc ceux-là, vous ne les gardez pas tous?
Non, pas tous, pas tous. Parce que je sais que j'aurais plus besoin de les relire. Et parce que c'est pas... Enfin, évidemment, Zweig, Schnitzler et Trakl, oui, je les garde. Mais sinon, les mémoires d'un spéculateur, c'est pas sûr que je les garde, celui-là.
Oui, 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 d'accord. Ouais. Et quels sont vos auteurs préférés, Camille de Peretti?
Vous pouvez voir sur les rayonnages, sans aucun doute, qu'il y a Balzac. Parce qu'il a une énorme... Bah, il est...
C'est tout ça.
C'est tout ça. Il va de là... Ah là, ouais, il prend tout ça à Balzac. J'ai presque lu l'intégrale, je pense, de Balzac. J'ai même lu les contes drôlatiques, vous voyez, alors que c'est quand même très... C'est pas terrible. Et puis, c'est le seul que j'ai en Pléiade aussi, en intégrale. Et ça, c'est super parce que dans la Pléiade, il y a l'index des personnages de la comédie humaine. Donc, vous pouvez retrouver des personnages. C'est pas si facile de naviguer dans la comédie humaine. Donc, Balzac, sans surprise. Proust, évidemment. Mais Proust, j'ai pas du tout lu. Et je pense que je suis un peu jeune aussi et je m'en garde sous le coude. Donc je sais qu'il y a des livres de Proust qui sont extraordinaires et que j'ai même pas commencé à ouvrir et en cas de malheur, je peux toujours... Il m'en reste. Dans cette bibliothèque, il n'y a que des livres que j'ai lus. Par principe, je ne mets pas de livres que je n'ai pas lus dans ma bibliothèque.
Vous avez des goûts très éclectiques quand même. Hein. Oui, bah oui, c'est bien, mais Robert Musil, on passe de Robert Musil à Guillaume Musso.
Ah bah alors Guillaume Musso, ça c'est un exemplaire dédicacé. Ça c'est un exemplaire dédicacé parce qu'il est chez Calman.
Oui.
Et c'était la première fois que je publiais un livre chez Calman et lui, il publiait la même année que moi. Et il me l'a dédicacé, donc je trouvais que c'était un bon souvenir. Mais oui, effectivement, vous avez Musil, Musso, Nabokov, Nemirovski, Anaïs Nin. Ça, ouais. Alors, il y a pas mal de livres en anglais aussi, parce que j'ai la chance d'être bilingue. Alors ça, c'est chouette. Donc, j'ai beaucoup de livres de grands auteurs anglais en anglais. Il y a vraiment beaucoup de classiques. Il y a beaucoup de Stendhal, de Flaubert, voilà. Il y a pas mal de littérature japonaise, parce que j'ai habité au Japon et que je me suis beaucoup intéressée à la littérature japonaise.
Sont vos auteurs japonais préférés?
Tanizaki, je pense. L'Éloge de l'ombre, ça, c'est vraiment merveilleux. Et puis après, il y en a d'autres, Kawabata, enfin, des gens comme ça. Ils sont très poétiques, en fait. Mais vous avez même Murakami, vous voyez, enfin, c'est plus moderne, quoi.
Donc vous êtes une très grande lectrice, quand même, et vous aimez beaucoup de choses. Enfin, la philosophie, la poésie, le roman contemporain, les classiques. Oui, vous aimez énormément de choses.
Oui, je lis de manière presque compulsive, hein, Je pense que je lis plus de 60 livres par an.
D'accord.
Je lis plus d'un livre par semaine.
Oui.
Facile.
Oui.
Mais donc des bons gros livres.
Plus ils sont gros, plus vous aimez.
Typiquement, quand j'étais au Japon, j'étais partie avec des livres et pas assez. Et donc j'avais lu tout très vite et ça coûtait très cher les livres en langue étrangère au Japon. Donc lorsque j'allais à la librairie, je prenais juste le plus gros possible parce que je me disais il faut juste que j'ai dû, voilà, et c'est comme ça que j'ai lu les œuvres complètes de Edgar Allan Poe alors que j'aurais jamais lu ça, je pense. Mais c'est parce que c'était le plus gros livre que j'avais trouvé pour le moins cher possible dans la librairie japonaise d'Osaka. Donc voilà, ce genre de choses.
Et vous parlez le japonais ?
Non, malheureusement pas. Enfin, un petit peu, mais très mal.
Camille de Peretti, je rappelle les références de votre dernier roman, qui est le 8e, je crois.
Le 9e.
Le 9e. Donc, votre 9e roman, qui s'appelle L'inconnu du portrait, qui est, je l'ai déjà dit, un magnifique roman d'aventure.
Merci beaucoup.
Très émouvant. Et qui est publié aux éditions Calman-Lévy, sorti le 3 janvier.
Merci
Camille de nous avoir accueillis chez vous.